On est par téléphone avec Rémi Lefebvre. Rémi Lefebvre, ancien bénévole de Radio PFM. Aujourd'hui, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Lille 2, chercheur au CNRS.
Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous.
Votre objet d'étude depuis longtemps, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes d'ailleurs aussi adhérent de ce parti, me semble-t-il. Mm-hmm. Vous êtes conseiller municipal à LM. Plutôt tendance frondeur, si je ne dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
Alors, on parle avec vous, pas seulement du PS aujourd'hui, mais plus généralement de l'échiquier politique français, puisque ce mercredi 9 novembre à 18h à Sciences Po Lille, vous intervenez sur le thème « Les primaires, une révolution démocratique ?» point d'interrogation. Donc, c'est une conférence et puis la présentation du livre du même nom, co-dirigé avec Éric Treille, un docteur en sciences politiques. Alors peut-être un mot sur la démarche du livre ?
Eh bien, écoutez, c'est un livre voilà universitaire qu'on a constitué à partir d'une équipe de chercheurs qui travaillent sur tout à fait divers objets liés aux primaires, qui travaillent d'abord sur plusieurs partis politiques. Donc moi, pour ma part, qui écris une bonne moitié du bouquin, je travaille sur le Parti Socialiste, évidemment, mais depuis quelques mois, je travaille sur les Républicains aussi. Et puis, il y a d'autres chercheurs, qui travaillent sur les écologistes, qui travaillent sur les électeurs des primaires, sur les militants qui organisent des primaires, sur des juristes qui travaillent sur le droit des primaires, des spécialistes d'Internet qui travaillent sur les mobilisations liées à Internet au moment des primaires. Donc on essaie de croiser des regards différents sur cette question des primaires.
Alors comment c'est arrivé finalement en France ? Parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Pourquoi et comment c'est arrivé en France ce système de primaires ?
Bah écoutez, c'est justement une de nos questions de recherche. C'est une des énigmes qu'on se pose parce que pendant très longtemps, beaucoup de les hommes politiques, les journalistes et ceux qui réfléchissent à la politique en France jugeaient inconcevable que les Français utilisent ce mode de sélection des candidats qui, comme vous l'avez rappelé, vient des États-Unis et qui est, c'est vrai, très très particulier. Et la tradition en France, c'est que c'est plutôt les partis politiques eux-mêmes, les dirigeants ou plus récemment les adhérents à travers des votes directs qui désignent le candidat. Voilà, donc depuis quelques années, on observe le fait que les primaires sont devenues centrales dans la sélection des candidats, puisque en 2011, le Parti Socialiste, pour la première fois, a utilisé les primaires ouvertes pour désigner son candidat. Donc à l'époque, c'était François Hollande. Les écologistes ont fait une primaire semi-ouverte entre Eva Joly et Nicolas Hulot. Et puis, cette année, on va avoir trois primaires successives. On a eu la primaire écologiste. Donc là, il y a Yannick Jadot qui a été désigné lors d'une primaire ouverte. La primaire de la droite qui aura lieu fin novembre. Et la primaire socialiste ou de la Belle Alliance populaire qui aura lieu au mois de janvier. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la vie politique a ajouté une élection. Maintenant, les élections présidentielles, il y a trois tours. On peut même dire qu'il y a six tours avec les élections législatives. Pour certains partis, peut-être pas pour tous les partis, mais pour les plus importants. Donc, deux tours aux élections primaires, deux tours aux élections présidentielles. Puis après, il y a des élections législatives qui suivent les élections présidentielles et qui visent à donner une majorité au président de la République. Alors, donc voilà un petit peu c'est une révolution, les primaires. Ça révolutionne la vie politique. Et donc, comment on est arrivé là? Donc, il y a plusieurs, évidemment, éléments d'explication. La principale, la thèse de l'ouvrage, c'est de dire que c'est un aveu d'impuissance, les primaires. Les partis sont devenus trop faibles, trop peu représentatifs, pas capables d'organiser des procédures, des votes internes fiables et honnêtes, parce qu'il y a un vrai problème aussi de confiance dans les partis politiques. Et donc, du coup, ils ouvrent le processus de désignation aux sympathisants, c'est-à-dire on n'a plus besoin maintenant d'être membre d'un parti politique pour participer à la désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle.
Oui, d'ailleurs, au moment des primaires socialistes, il y a 5 ans, me semble-t-il, les adhérents du PS tiraient un peu la tronche parce que, du coup, ils n'étaient plus au centre du processus de décision puisque c'est une primaire ouverte.
Oui, oui. Alors, je sais pas, vous avez dit tirer la tronche. Je sais pas, pas tous, parce que, en fait, d'abord, c'est vrai que les militants, il y en a plus beaucoup dans les partis politiques, et les partis politiques sont tellement décrédibilisés que les militants voient pas forcément toujours d'un mauvais œil le fait que ils organisent une procédure qui est présentée comme démocratique, parce que c'est vrai. Alors peut-être que le regard sur les primaires va changer, mais jusque maintenant, on présente. Alors moi-même, si même je suis très réservé, puisque je suis assez critique sur cette histoire des primaires, hein, à titre de jugement, un peu de valeur. Malgré tout, les médias présentent ça comme très démocratique. Donc ça donne à nouveau un peu une fierté aux militants de participer à des partis qui organisent ce type de procédure. Cela dit, vous avez raison, ça n'encourage pas le militantisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui pourraient rentrer dans les partis politiques peuvent se dire désormais, mais à quoi ça sert d'être dans un parti, puisque lors de l'élection la plus importante, c'est-à-dire celle qui désigne le candidat, eh bien, il ne faut pas besoin de prendre sa carte pour voter. Voilà. Donc pour moi, en fait, c'est un petit peu l'écueil principal des primaires, c'est que ça affaiblit les partis politiques. Les partis politiques n'arrivent plus à produire des candidats en interne. Ils externalisent la fonction de désignation du candidat à l'extérieur. Du coup, il reste plus grand-chose à y faire dans ces partis. Et donc, du coup, ils deviennent un peu des coquilles vides.
Si on est optimiste et qu'on voit ça comme un progrès démocratique, on peut se dire que ça permet aux citoyens d'être au clair avec les différents mouvements qui traversent les partis. Et puis, ça permet aussi d'éviter les petits arrangements de couloirs au sein de ces partis.
Oui, alors, deux choses dans votre question. Bon, ça ne supprime pas les petites magouilles ou les petites de partis, puisque malgré tout, il faut pouvoir être candidat à la primaire. On l'a vu à la primaire de droite, au départ, il y avait 15 candidats. Au final, il y en a 6 ou 7. Donc quand même, il faut avoir les parrainages pour pouvoir participer aux primaires. Les manœuvres perdurent, si vous voulez. Vous me dites dans votre question que ça permet d'être en prise avec la société. Alors oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est que les participants à la primaire sont pas forcément très représentatifs de la population. C'est-à-dire que ce qu'on a vu au moment des primaires de 2011, alors on verra ce que ça donne en 2016 et en 2017, pour le PS, en fait, c'est surtout les militants les plus politisés, les plus diplômés, les plus urbains qui ont participé. Et donc, du coup, par exemple, le PS, s'il veut renouer avec les milieux populaires, les catégories populaires, avec les primaires, ça va pas marcher. C'est-à-dire que il ne se reconnecte pas avec son électorat populaire grâce aux primaires, parce que les primaires, peut-être que ça changera avec le temps, mais s'adresse plutôt à un électorat très politisé. Voilà, qui n'est pas forcément le cœur de l'électorat socialiste.
Je parlais aussi des différents mouvements qui traversent les partis. Ça peut jouer aussi. Bon, même si, par exemple, si on regarde à droite, là, en ce moment, il y a certes des courants différents, mais aussi des problèmes de personnalité. Hein.
Oui, évidemment. C'est-à-dire que je pense que les primaires, on est candidat, puis après, on trouve des moyens de justifier sa candidature. Est-ce que les primaires enrichissent vraiment le débat démocratique? Oui, par certains côtés. Par exemple, la primaire de 2011, il y avait eu une certaine polyphonie. C'est-à-dire entre Montebourg à gauche et Manuel Valls à droite, on a vu toute une série de candidats. Et Montebourg, par exemple, avait apporter une vraie richesse dans le débat. Est-ce que vraiment, on l'a vu lors de débats des candidats de droite, c'est sur des nuances où il y a une surenchère à droite. Alors, est-ce que vraiment ça contribue au débat public? Bon, ça permet aux électeurs les plus politisés de s'intéresser. Il y a parfois des mesures qui sont très gadgets que proposent les candidats pour donner l'impression qu'ils vont apporter quelque chose, mais ça révolutionne pas la politique.
Est-ce que une des raisons pour lesquelles les partis principaux choisissent ce mode pour désigner leurs candidats, est-ce que c'est pas une question d'efficacité tout simplement, parce que ça permet de médiatiser assez tôt la campagne de leurs candidats?
Vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que la droite a adopté les primaires. Qu'est-ce que s'est rendu compte la droite? La droite était tout à fait contre les primaires. D'ailleurs, elle avait essayé de les de les plomber lorsque le PS demandait des mairies et des moyens pour organiser le vote en 2011, la droite s'est rendue compte que les primaires, quand ça se passait bien, alors on va voir si... Pour l'instant, la primaire de droite se passe relativement bien, il n'y a pas trop de conflits, ils se déchirent pas sur les plateaux de télévision, c'est rugueux sans être catastrophique en termes de spectacle de division, mais surtout les primaires, ça permet... De commencer la campagne plus tôt, de roder les candidats, de roder les militants, d'occuper les médias, et puis surtout de produire un candidat, si ça se passe bien, qui est reconnu de tous et qui est le candidat de l'Union. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est un argument d'utilisation des primaires, c'est performant. Alors, je mets quand même un bémol à mon analyse, parce que en fait, ce qui s'est passé, qui a rendu les primaires populaires, c'est que pour l'instant, le seul candidat qui était désigné dans le cadre des primaires, François Hollande, a gagné l'élection présidentielle. Alors, si les primaires fonctionnent moins bien, et puis surtout si les candidats désignés par les primaires, alors je pense surtout à la primaire de droite, parce que la droite aujourd'hui a beaucoup plus de chances de gagner l'élection présidentielle que la gauche, si le candidat désigné par les primaires est battu, peut-être qu'on aura un regard un peu différent sur les primaires.
Alors justement, oui, il y a encore des partis qui ne choisissent pas de primaire pour désigner leur candidat. Bon, à l'extrême droite, le FN, pas de surprise, hein, c'est pas les champions de la démocratie sans doute. Mais de l'autre côté, plus à gauche, notamment à gauche d'Europe Écologie Les Verts, le PCF, le Parti de Gauche, le Front de Gauche, le NPA, Lutte Ouvrière, tous ces partis-là ne choisissent pas ce mode-là.
Bah oui, et pourtant peut-être qu'ils en auraient bien besoin, vu l'état quand même de fragmentation dans lequel ils se trouvent, hein, parce que le Parti Socialiste va très très mal, mais le problème du point de vue d'un perspective progressiste, c'est que la gauche du PS ne va pas beaucoup mieux. Le problème, c'est que les primaires sont un outil à produire de l'unité. Le problème, c'est que les primaires sont surtout faciles à organiser dans le cadre d'un parti, dans le cadre des candidats d'un parti. C'est beaucoup plus difficile à organiser entre des partis politiques, parce que les partis politiques ont du mal à renoncer à l'élection présidentielle, parce que premier tour, l'élection présidentielle, ça donne une publicité, ça donne un écho en fait à leurs candidats, ça permet aussi de négocier des postes pour les élections législatives par la suite. Et puis surtout, évidemment, ça empêche d'être au premier tour, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui les Verts, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon décidaient de ce qu'ils ne feront pas, c'est trop tard, de faire une primaire entre eux, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul candidat, évidemment. Et donc, ils doivent renoncer à l'élection présidentielle. Pourtant, ça serait une obligation, parce qu'aujourd'hui, on voit mal ce qui ferait que la gauche soit au deuxième tour de l'élection présidentielle. Hein. On va vers une catastrophe pour la gauche. C'est-à-dire que la gauche n'arrivera pas, surtout si elle est... Même si elle est unie, elle n'arrivera peut-être même pas à être au deuxième tour. Alors, a fortiori, si elle est désunie, ça ne marchera pas. Bon, alors, par exemple, Mélenchon... la question que se pose Mélenchon aurait pu se dire je vais jouer la primaire pour essayer de battre le candidat socialiste. Mais il ne veut pas, alors que peut-être on peut penser qu'il a de meilleures chances d'être deuxième tour s'il passe par cette primaire, sauf que s'il perd la primaire, il est obligé d'appeler à voter pour le candidat socialiste, et ça, il s'y refuse. Ce qu'on peut tout à fait comprendre vu la droitisation du PS ces dernières années. Et donc, du coup, la gauche est dans une impasse, quoi. La gauche est dans une impasse. C'est une situation où les primaires ne parviennent pas à produire... Certains refusent les primaires avec de bons arguments. Et donc, du coup, on est dans une situation d'explosion, d'atomisation de la gauche.